Bon, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette séance numéro 21 sur le service en temps de défi. Donc, à vous tous et à vous toutes qui êtes en direct, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez être richement bénis par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous bénit toujours. Alors, ayons-nous le cœur ouvert pour recevoir de sa parole. Et à tous ceux qui vont nous écouter, ou qui vont écouter plutôt par la diffusion, également, soyez bénis par la parole de Dieu. Nous allons prier et par la suite, nous allons rentrer dans le sujet pour cette semaine. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour la vie, Seigneur, que nous avons en toi. Merci Seigneur pour le sang précieux de Jésus qui nous lave et nous purifie. Seigneur, parce que ce n'est pas selon nos œuvres, Seigneur, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés, Seigneur, ou que nous pouvons accéder à quoi que ce soit, Seigneur, qui se trouve en toi. C'est par ta grâce, c'est parce que tu es mort à la croix, c'est parce que tu es venu servir et tu es venu servir jusqu'à la mort que cela ouvre, le Seigneur, le chemin pour nous. Et tu nous appelles, Seigneur, à te servir. Tu nous appelles, Seigneur, à être des serviteurs, à être des ouvriers dans cette génération, Seigneur, que ta parole, comme elle le fait depuis des semaines, qu'elle continue à nous interpeller, à nous défier peut-être, à nous corriger, à nous instruire, mais surtout et par-dessus tout, à nous édifier, à nous nourrir, Seigneur, parce qu'on a besoin de cet aliment dans nos vies, qui est ta parole, Seigneur. Alors, merci pour la disposition des bien-aimés. Merci Seigneur pour ceux qui servent, Seigneur, à la technique, qui sont là, Seigneur, semaine après semaine, que tu les bénisses. Et également tous ceux qui écoutent et qui participent, Seigneur, en appliquant ces principes dans leur vie, que tu les bénisses également. Donc, prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vois qu'il y a eu quelques salutations sur la page. Donc, salutations à tout le monde, également à vous, à vos familles. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous fortifie. On va lire dans Marc au chapitre 6 et on va lire les derniers versets du chapitre 6. Donc, Dieu voulant, cette semaine, c'est la dernière semaine qu'on va être dans ce chapitre. On a été pas mal longtemps dans ce chapitre, mais comme vous avez pu le constater, il y a énormément de contenu, il y a énormément de leçons, d'enseignements qu'on peut retirer de ce chapitre-là. Il est très, très précieux. Pour ma part, en tout cas, je l'ai découvert en faisant ces études-là et c'est vraiment un trésor. J'ai beaucoup apprécié personnellement ce que le Seigneur m'a donné par rapport à cette série d'études et je sais que c'est un chapitre qui aura marqué ma vie. Et j'espère qu'elle bénira aussi la vôtre. Donc, nous allons lire à partir du verset 53 au verset 56 de Marc, au chapitre 6. Chapitre 6, donc verset 53 au verset 56, nous lisons. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs. Et l'on se mit à porter les malades sur les lits, partout où on l'apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Le serviteur éprouvé. Le serviteur qui est éprouvé. Nous allons faire un petit survol de la session précédente. La semaine dernière, nous avions vu cet événement où est-ce que Jésus, tout de suite après la multiplication des pains, il se précipite pour renvoyer ses disciples sur la barque, les ramener de l'autre bord. Parce qu'il savait que quelque chose était en train de se préparer dans le cœur, qui était en train de grandir dans le cœur de la multitude qui était là, qui avait été témoin et avait été bénéficiaire également de ce miracle de la multiplication des pains. Ces gens-là avaient l'intention de faire de Jésus roi à ce moment-là. Et on avait vu qu'en Galilée, historiquement, c'était une région où la rébellion, c'était quelque chose qui était très populaire. Des mouvements politiques, des mouvements populistes, des mouvements de masse ont marqué cette région-là. Et donc, Jésus voulant éviter ce piège, mais voulant éviter également que les disciples, eux, soient marqués ou qu'il y ait une semence dans leur cœur qui pourrait plus tard leur causer du tort et être fatale dans leur vie, dans leur ministère, il les oblige, il les force à monter sur la barque et à traverser, et lui, il reste pour renvoyer la foule. Et on voit que, on comprend par là que devant une situation, devant un piège, Dieu peut avoir différentes sorties de secours, différentes façons de gérer la chose, et Dieu sait comment traiter avec chacun de nous face aux dangers qui sont devant nous. Et parfois, ce sont des dangers qu'on ne voit même pas. Les disciples ne s'étaient pas rendus compte parce que la Bible dit que Jésus n'a pas vu, c'est que Jésus a su. Donc, sachant, parce que lui voyait, il voit les cœurs, il voit les pensées, les disciples n'en avaient aucune idée de ce qui pouvait se préparer à ce moment-là ou qui pouvait arriver. Donc, Jésus, voyant ça, pour protéger les disciples, il les envoie sur la mer, mais il les envoie dans une tempête. Et combien de fois, nous, on est dans une épreuve, on passe par une tempête et on pense que Dieu nous a abandonnés. On pense que Dieu ne nous aime pas. On pense qu'on est mauvais, on est en mauvaise condition, qu'on est dans le péché, qu'on est ci, qu'on est ça. Et Jésus, tout simplement, ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, c'est de nous garder d'un piège. C'est de nous garder d'un piège qui serait fatal. De garder notre cœur, de recevoir une semence qui va par la suite se traduire par un échec. Par un échec de notre vie, de notre ministère, de notre service, de notre foi, de bien des choses. Et donc, ça remet en perspective un petit peu tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Parce que des fois, on pense savoir, mais dans le fond, on ne sait pas grand-chose de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et peut-être tu es dans une épreuve présentement et tu penses que Dieu t'a abandonné. Et dans le fond, peut-être que Dieu est juste en train de te garder de quelque chose de pire. Et dans son amour, il te protège et il te garde. Jésus, par la suite, s'est retiré. Donc, il a renvoyé la foule. Il s'est retiré pour aller prier. Ça nous enseigne également que devant les situations qui sont dangereuses, qui représentent un danger, il ne faut pas traîner. Il ne faut pas faire du flânage autour. Il faut partir vite. Joseph, à chaque fois que la femme de Potiphar venait vers lui, ben Joseph, lui, il restait pas là pour négocier, là. Joseph restait pas là, puis il comptait le temps, puis il disait, bon, je vais voir combien de temps je vais toffer cette fois-ci. Peut-être je vais battre mon record. Non, il se retirait immédiatement. Et donc, Jésus a fait la même chose. Et elle est allée prier. Donc, le retrait, le fait de se remettre à part, de se retirer, c'est une façon également d'éviter des pièges. Et surtout la prière. Avoir une prière qui est régulière dans notre vie. On a vu également que le fait d'être admiré, d'être amené à avoir une reconnaissance supérieure, suprême, absolue, c'est quelque chose qui a été mis comme tentation à Jésus, c'est quelque chose qui sera mis également en tentation à nous tous, et c'est quelque chose qui revient constamment, on l'a vu. Les gens là voulaient le faire roi. Et dans le fond, le premier qui a voulu faire roi Jésus, c'est Satan. Le diable, c'est le premier qui a voulu faire de Jésus un roi en lui disant, en l'amenant sur la montagne et en lui présentant tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et puis là, il lui dit, ben, écoute, je te donne tout ça. Donc, je ferai de toi le roi de tout cela si tu te prosternes devant moi et m'adores. Si Jésus avait pris cette tangente politique de dire, bon, ok, oui, tu sais quoi, je vais être roi, ça va peut-être me faciliter dans, dans mon approche, ça va peut-être faciliter mon ministère, ça va peut-être faciliter bien des choses, je vais pouvoir mieux répondre, avoir des ressources ici et là. Logiquement ou humainement, il aurait pu penser que c'était une option viable, mais s'il aurait pris cette tangente politique, tout son ministère aurait été anéanti. On a vu également que Jésus avait besoin de prier à ce moment même, avec tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant dans la vie de Jésus à travers Marc, toutes les différentes pressions, les différentes forces qui exerçaient une pression dans la vie de Jésus, eh bien Jésus avait besoin juste de se mettre à l'écart et de prier. Mais pas de faire une petite prière, de bénédiction de repas, là. La petite prière de bénédiction de repas, il l'avait faite un petit peu avant. Là, il avait besoin de prier. Il avait besoin d'aller à la montagne, c'est-à-dire de se séparer, de laisser les choses terrestres de côté et de prendre du temps pour être dans la présence de Dieu. Et c'est ça, aller à la montagne, c'est aller à la rencontre de Dieu, c'est expérimenter Dieu dans sa gloire, dans sa puissance, dans son amour, et avoir un regard, une vision qui est transformée. Une vision sur ces choses terrestres qui est transformée parce qu'on n'est plus au niveau, au même niveau que ces choses-là. On est élevé dans la présence de Dieu et avec une perception différente, une perception dans laquelle on voit la gloire de Dieu agir, dans laquelle on voit la puissance de Dieu agir. Et c'est ce qu'on a tous besoin, particulièrement le temps dans lequel on vit, le contexte qu'on vit aujourd'hui, on a besoin d'avoir ces moments-là où est-ce qu'on va à la montagne de Dieu. Pas de faire des prières en train de passer l'aspirateur, pas de faire des prières en train de faire la vaisselle, ou, je ne sais pas, conduire la voiture. Non, de prendre un temps à part. On laisse tout de côté, on laisse tout, et on se concentre sur le Seigneur pour avoir une rencontre avec lui. Et je pense qu'on bénéficierait tous d'avoir un regard nouveau. Même par rapport à cette pandémie, même par rapport aux circonstances, même par rapport à toutes les incertitudes qui nous entourent présentement, je pense que ça serait bénéfique pour toi, pour moi, mais pour l'ensemble de l'Église, d'avoir ce moment-là, d'aller à la montagne de Dieu et d'être transformé, de revenir et de s'occuper, si on peut dire, des choses, mais avec un regard différent. Et on voit que à travers cette prière-là, alors que Jésus monte à la montagne, tous les tumultes dans sa vie viennent sous les pieds de Dieu. Et là, ça nous enseigne que marcher sur les eaux dans une tempête, donc marcher sur les tumultes de la vie, c'est ce que Jésus a fait, mais c'est ce que chaque serviteur, chaque homme, chaque femme de Dieu qui sert Dieu devrait faire. C'est-à-dire de par la prière, parce que je vais à la montagne de Dieu, ma perception de toutes ces choses-là change. Je place toutes ces choses sous l'autorité de Dieu, sous la souveraineté de Dieu. Et donc, je marche avec foi, avec conviction, et je peux aller vers la barque. Je peux aller là où est-ce que mes amis, je peux aller là où est-ce que des gens sont dans le besoin et ont besoin que quelqu'un calme leur tempête. On a besoin que quelqu'un amène la tranquillité dans leur vie. Et ça, c'est toi et c'est moi. Mais on ne peut pas aider ces gens-là si nous, on s'enfonce dans la mer. Si nous, on s'enfonce dans l'anxiété de nos tumultes. Si nous, on s'enfonce dans le doute, dans l'angoisse et dans la peur. On ne sera pas utile. On ne sera pas capable de se rendre utile à servir des gens tant aussi longtemps que nous-mêmes, on n'a pas géré les choses dans notre vie. Et comment est-ce qu'on les gère, les tumultes de notre vie? C'est en les plaçant sous l'autorité de Christ. Donc, en faisant cela également, on invite le naturel à prendre toute la place dans notre quotidien. Et on a besoin aussi, on a besoin que le surnaturel fasse partie de notre quotidien. Donc, voilà ce qu'on avait vu la semaine dernière en quelques phrases. Aujourd'hui, nous voyons donc les derniers versets de ce chapitre et j'aimerais vous faire remarquer un parallèle. Pardon. J'aimerais vous faire remarquer un petit parallèle ici. Entre le début du chapitre 6 et la fin du chapitre 6. Parce que tout est important dans la parole de Dieu. Et c'est important de prendre les choses aussi de les placer dans leur contexte mais aussi de voir dans la ligne de temps qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Et ce qui est curieux, c'est que ce chapitre-là commence dans le fond avec un endroit ou un événement où est-ce que on reconnaît Jésus et le fait de reconnaître Jésus, ça conduit vers une série de questionnements, une série de critiques. Et ça va jusqu'à dénigrer la personne de Jésus et à le mettre en doute et à même rejeter ou avoir des propos assez forts qui, dans le fond, qui manifestent de l'incrédulité à l'égard de Jésus, qui manifestent même du rejet par rapport à tout ce que Jésus est, à tout ce que Jésus pourrait amener. Ça, c'est ce qu'on voit au début du chapitre. Mais à la fin du chapitre, il y a encore une reconnaissance de Jésus. Quand Jésus sort de la barque, les gens le reconnaissent. Mais au lieu d'avoir une réaction négative, d'incrédulité, de remise en question, de critique, de doute, il y a plutôt des gestes de foi. Il y a des actes de foi qui sont posés. Et ça, ça conduit à une manifestation de la puissance de Dieu à ce moment-là, dans la région de Génézareth. Et c'est important et c'est curieux même de voir ce parallèle-là. Ce parallèle où est-ce que, d'un côté, il y a ce moment qui est pas confortable, qui n'est pas facile lorsqu'on est dénigré, lorsqu'on est méprisé, lorsqu'on est rejeté. Et un autre moment donné où est-ce que on sent une acceptation, on sent une confiance, on a foi, et que cela amène dans le fond à une manifestation de la grâce, à une manifestation de la puissance de Dieu. Et entre les deux, dans le fond, que ce qu'on a vu au chapitre 6, qu'entre les deux, il y a une série d'événements, il y a une série de circonstances, il y a une série d'épreuves également qui, comme on a vu au courant des dernières semaines, sont riches en enseignements pour nous. Et ça résume beaucoup la vie du serviteur. Parce que la vie, c'est-à-dire notre vie, eh bien, elle est marquée par ces deux extrêmes, si on peut dire. Elle est marquée par ces deux positions opposé. Mais entre les deux, il y a une série d'événements, il y a une série d'étapes, il y a une série d'épreuves. Et c'est ça qui constitue ce qu'on appelle la vie. On peut penser ou on peut faire tous nos efforts pour essayer de rester dans un temps où c'est la foi, tout est positif, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie. Il y a des gens, on dirait, qui vivent juste de ça, que leur vie, c'est juste ça, puis qu'ils n'ont jamais expérimenté le rejet à cause de Christ. Non, on dirait que toute leur vie est parfaite, toute leur vie est belle. Et il faut dire que pour un enfant de Dieu, ben, ce n'est pas vrai. Et c'est même irréel et dangereux de penser de la sorte. Parce que si c'est arrivé avec Jésus, bien, ça va arriver avec nous aussi. Ça va arriver avec nous aussi. Peut-être qu'on n'a jamais vécu de grands moments de rejet ou de dénigrement, de mépris, mais il y en aura certes. Il y aura certes des épisodes qui vont être plus de ce côté-là. Et on va autant apprendre, et Dieu va autant se glorifier, et on va autant grandir par ces expériences-là que par les autres expériences où ce que tout coule à flot et la foi est là, la grâce est là, la puissance de Dieu est là et on dirait que tout ce qu'on fait réussit et tout ce qu'on fait, oh Dieu, la puissance de Dieu se manifeste et les gens nous aiment, les gens nous attendent, les gens sont réceptifs à nous et tout. À garder en tête parce que c'est important pour toute personne qui veut servir Dieu d'avoir ça en tête. On va voir les deux, et entre les deux, la vie. On a vu également, puis je le ramène un peu parce que je trouve que c'est important, on a vu que Jésus avait besoin de prier. Jésus avait besoin de prier parce que il y avait des choses dans sa vie dont Marc 6 nous relate et nous le montre, et des choses assez lourdes, assez pesantes pour la vie de n'importe quel homme, même le plus intelligent, avoir à adresser, avoir à gérer les situations dans lesquelles Jésus se trouvait, les défis auxquels Jésus faisait face à ce moment-là, bien, c'était humainement quasiment impossible. Et Jésus arrive, dans le fond, dans Marc au chapitre 6, déjà avec un début d'hostilité de la part des Juifs. La Bible nous dit même qu'il y avait des Juifs qui déjà avaient commencé à se dire, je pense que lui va être un problème, puis il va falloir l'éliminer. Donc déjà, il y avait dans cette hostilité-là de la part des religieux juifs un début d'intention de vouloir éliminer le Seigneur de la carte. On a vu également qu'il y avait l'incrédulité et le rejet à Nazareth. Quand Hérode a entendu parler de Jésus, il pensait que c'était Jean qui était ressuscité. Et donc, Hérode ayant une très grande peur de Jean, ne savait pas trop quoi penser de Jésus. Et ça aurait pu lui amener un peu les mêmes types de problèmes. Jésus avait un grand fardeau pour les âmes. C'est pourquoi il est venu sur terre. Mais combien de fois on voit que Jésus est ému de compassion, c'est-à-dire que même il en était secoué et bouleversé jusque dans ses tripes, de voir la souffrance, de voir le besoin chez les gens. Et comme on a vu lors de la multiplication des pains, c'est que les gens avaient l'intention de faire de Jésus un roi. Et ça, c'est particulier parce qu'autant il y avait des gens qui voulaient le tuer, il y avait des gens qui voulaient le dénigrer, il y a des gens qui voulaient l'élever, il y a des gens qui ne savaient pas trop quoi penser de lui. Et Jésus devait être au milieu de tout ça. Et Jésus devait également s'occuper des hommes. Beaucoup de fardeaux pour un homme qui avait besoin à ce moment-là de prier. Et tous ces preuves, eh bien, on va en faire un petit résumé, juste encore une fois, de ce qu'on retrouve dans Marc au chapitre 6. Premièrement, on avait le séjour à Nazareth, où Jésus fut remis en question, sa personne, son identité fut remis en question, parce qu'on a été témoin de l'incrédulité et du rejet de la part des gens qui étaient de son propre patelin. Et donc, de la tentation de chercher la reconnaissance, de la reconnaissance des autres. On a vu lors de la mission des 12 qu'il fallait apprendre à travailler en équipe. Travailler en équipe, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, on est rempli du Saint-Esprit, puis là, on sait comment travailler en équipe. Non, ça demande un défi personnel. Peut-être à certains plus qu'à d'autres, mais à nous tous, ça va nous demander un certain travail sur notre propre personne pour arriver à être un bon joueur d'équipe, pour arriver à travailler ensemble, en équipe, comme le corps de Christ que nous sommes. Et entre autres, on a vu qu'un des défis, c'est au niveau de l'orgueil. Des gens qui se pensent autosuffisants ou qui pensent que si eux autres le font tout seuls, ça va être mieux. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a constitué les choses dans son royaume et dans l'Église et dans le service. C'est un travail d'équipe. On est tous dépendants les uns des autres. Donc, quelqu'un qui se croit indépendant dans le service est dans l'erreur et ne reflète pas le caractère ni les valeurs de Christ. Donc, il y a par là l'orgueil, mais il y a également l'insécurité. L'insécurité face aux autres. Qui pousse également les gens à se renfermer sur eux-mêmes. C'est des choses dans notre vie, dans notre caractère, que Christ veut travailler et Christ veut changer. Et c'est dans notre intérêt et c'est pour le bénéfice de l'Église, de l'œuvre de Dieu, que ces choses-là soient travaillées dans nos vies. On parle de ces deux éléments-là, mais il y en a bien d'autres qui sont nécessaires pour nous d'abandonner aux pieds de Christ pour être transformés et être davantage utile au travail. Donc, ici, bien, l'épreuve, c'est de faire confiance aux autres. Et dans un contexte aujourd'hui où est-ce que on est de plus en plus isolé, distancié, éloigné, séparé par 2 mètres, 1 mètre et demi, parfois 1 mètre, parfois plus. Ça dépend d'où est-ce qu'on est et ça dépend de la zone dans laquelle on se trouve. Une certaine peur de l'autre peut s'installer, une certaine méfiance par rapport à l'autre commence à s'installer. Et ça peut affecter même notre service, notre vie en tant que chrétien. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus a fait confiance à ses 12, en sachant que parmi ces 12-là, il y avait un traître, en sachant que parmi ces 12-là, bien, tout le monde allait le laisser tomber. Jésus a quand même fait confiance à ces hommes-là. Ça parle beaucoup de faire confiance aux autres. À la mort de Jean-Baptiste, on a vu que on doit servir sans attente d'avoir un traitement juste. Jean n'a pas eu un traitement juste de la part d'Hérode. Il a été mis en prison sans aucune accusation, juste parce que Jean est allé avec la vérité auprès de ce gouverneur-là, de ce dirigeant-là. Et ce dirigeant-là a abusé de son pouvoir pour mettre Jean en prison, sans procès, sans rien. Donc, c'était injuste. C'était totalement injuste. Et ça n'a pas changé le message, ça n'a pas changé l'attitude ni le témoignage de Jean-Baptiste. Ça nous a montré également l'importance de faire cette réflexion-là sur « Suis-je prêt à mourir pour Jésus? Suis-je prêt à mourir en servant à cause de Jésus? » Et l'enseignement, là, le défi pour nous, c'était de garder le témoignage malgré les circonstances. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient justes ou injustes, qu'elles soient porteurs d'espoir ou qu'on sente la mort venir, de garder notre témoignage. Lors de la multiplication des pains, on a vu que les gens servaient, les disciples étaient en train de s'occuper des gens et qu'ils n'avaient pas mangé, ils étaient fatigués, ils avaient sauté leur repas de lasagne. Et que, voilà, on doit servir malgré la faim, malgré la fatigue, malgré le manque de repos, de privacité, et tout le tralala. On a vu également que Jésus faisait preuve de compassion alors que tout le reste voulait pitcher ça, pardonnez l'expression, mais voulait lancer le problème de nourrir ces gens-là vers d'autres, en leur disant ben, qu'ils aillent dans les villages, que ce ne soit plus notre problème, que ce soit le problème des autres. Donc, qui est cette négligence-là? Les disciples, en pensant raisonner de cette façon-là, en pensant qu'ils raisonnaient bien, dans le fond, ils étaient en train de manifester une grande négligence. Alors, démontrer de la compassion. Et que là, également, pour nous, c'est un défi, c'est une épreuve. Dans le service, est-ce que nous servons avec compassion ou est-ce que nous faisons les choses pour s'en débarrasser le plus vite ou pour essayer de shipper ça à quelqu'un d'autre? Et donc, de faire des sacrifices pour le service. Et finalement, dans la marche sur les eaux, eh bien, ne pas profiter de la reconnaissance. Jésus n'a pas profité de l'importance de la place de prédilection que les gens voulaient lui donner, de la place royale. Il n'a pas profité de cette reconnaissance. Au contraire, il a empêché même que ça aille plus loin. On a vu également l'importance de la prière et comme épreuve et comme défi de placer nos tumultes sous les pieds du Seigneur pour servir. Toutes ces expériences-là, tous ces événements-là qu'on voit juste dans Marc 6, mais il y en a tellement dans tous les évangiles, mais juste dans ce chapitre-là, sont importants, sont profonds et démarquent une chose en ce qui concerne Jésus, c'est que Jésus était un serviteur éprouvé. C'était un serviteur qui avait passé les épreuves. C'était un serviteur qui avait passé les tests. Donc, il avait ce sceau d'approbation de Dieu dans sa vie. Et la Bible nous parle de l'importance d'être éprouvé. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, on lit ceci: Force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la vérité. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Et dans Jacques chapitre 1, verset 12, nous lisons: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le terme grec pour éprouver, c'est dokimos. Dokimos qui veut dire accepter, approuver, mais qui fait également référence à un peu le système, je ne dirais pas le système bancaire, parce qu'il n'y avait pas de système bancaire à l'époque, mais la façon de fabriquer les monnaies, les pièces de monnaie de métal à l'époque. Le métal était fondu, était placé dans des moules, et une fois qu'il était refroidi, eh bien, il fallait gratter la monnaie pour enlever les bavures, enlever l'excès. Et pour que la monnaie, dans le fond, soit au bon poids. Le poids est important. Et donc, il fallait gratter. Mais il y avait des gens, pas très honnêtes, pas très cocheux, qui rognaient davantage, qui grattaient davantage pour retirer du métal, pour retirer un surplus de métal. Comme ça, ça leur en faisait plus. Et cette pratique-là, elle était interdite. Et on estime qu'en 100 ans, il y a eu à peu près 80 lois à Athènes. 80 lois qui ont été votées pour contrecarrer cette pratique-là, qui faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de monnaie illégale, où il y avait beaucoup de fausses monnaies qui étaient en circulation à cause que les gens grattaient davantage le métal et modifiaient le poids que la monnaie devait avoir exactement. Et donc, les gens qui avaient la responsabilité de tester les monnaies, de éprouver les monnaies et de les approuver, on les appelait les dokimos. Pour que, dans le fond, eux autres, leur test était pour s'assurer que les monnaies étaient vraies, donc qu'elles avaient le bon poids. Si elles n'avaient pas le bon poids, elles étaient fausses. Elles étaient, en principe, illégales. Et cette illustration est très importante parce que lorsqu'il est dit que l'homme de Dieu est éprouvé, c'est-à-dire que l'homme de Dieu passe par ces épreuves-là, par ces tests que Dieu met dans sa vie pour déterminer si la foi de cet homme-là, si la foi de cette femme-là, elle est vraie. Pour savoir si la compassion, l'amour que cette personne-là dit avoir dans son cœur, si c'est un amour qui est véritable, si c'est une consécration qui est véritable, si les motivations qui sont dans son cœur quand Dieu pèse le cœur, si vraiment ce cœur est trouvé noble, est trouvé juste devant Dieu ou non. Jésus est celui qui pèse les cœurs, est celui qui voit les motivations de notre cœur. Et c'est lui le dokimos dans notre vie, qui dit si, à travers les épreuves, il voit quelle est notre attitude, quelle est notre réaction, comment est-ce qu'on se comporte lorsque nous faisons face à nos défis. Est-ce que nous avons une confiance, une foi sincère, une foi vraie, réelle en Dieu? Ou est-ce qu'on fait le tour du monde, on va vers plein d'autres options avant de venir à Dieu? Ou est-ce qu'on court à Dieu et on cherche à dépendre plus de lui et qu'on cherche Dieu dans la prière? Ou tout simplement, on se fâche contre Dieu et on s'éloigne de Dieu? c'est à ce moment-là où est-ce que on est dans cette situation-là, où est-ce que Dieu est notre dokimos. Et présentement, nous tous, nous sommes dans la main de Dieu, dans la main du dokimos. Nous sommes dans la balance du dokimos divin pour savoir si nous sommes éprouvés ou non. Et c'est important parce que les choses après cette pandémie-là, les choses après les circonstances qu'on est en train de vivre ne vont plus être les mêmes. L'Église également est appelée à changer dans bien des sphères et des aspects. Mais il est important que le service soit mené, soit exécuté par des hommes et des femmes qui ont le dokimos de Dieu dans leur vie. C'est important. Écoutez, il y a des gens qui s'autoproclament pasteur, s'autoproclament ouvrier, s'autoproclament prophète, apôtre. Ils s'inventent des titres, mais ils n'ont aucunement passé par le processus de dokimos de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter dans les choses de Dieu, ni se précipiter dans le ministère, ni dans le service. Il faut s'assurer. Il faut que toi, tu t'assures. Seigneur, est-ce que je suis dans ce processus-là? Est-ce que je suis dans la balance? Seigneur, comment est-ce que je me suis comporté depuis le début de la pandémie? Toutes les épreuves que le COVID, que le confinement, que le fait que l'Église est fermée, et ci et ça, que j'ai eu une incertitude par rapport à mon travail, que l'école, que les enfants, que ci, que ça. Seigneur, tous ces événements qui se sont produits depuis mars, quel est le dokimos que toi tu peux, Seigneur, dire de moi? Quel est le constat que toi tu peux faire de ma vie? Quel est le bilan que tu peux faire de ma vie? Si on prend juste mars, on va partir de mars parce que là, si on prend toute la vie, c'est une autre affaire, mais là, partons de mars. Est-ce qu'on est dokimos? Sommes-nous approuvés de Dieu? Avons-nous passé les tests comme il se doit? Ça, c'est une réponse qui est très personnelle entre chaque personne et Dieu. Mais je pense que c'est important parce que chaque serviteur, ou tout serviteur, doit être éprouvé. Toute personne qui désire servir Dieu doit avoir le dokimos, doit passer par la balance. Et Jésus doit voir si cette personne-là a le bon poids. Donc, la question se pose pour toi et pour moi. Es-tu dokimos par Dieu? Es-tu approuvé? Es-tu éprouvé? As-tu fait tes preuves? Et est-ce que Dieu peut dire, voilà quelqu'un qui a fait ses preuves? Si ce n'est pas le cas, la grâce de Dieu nous te permet, me permet à moi de corriger ces choses. Et de reprendre là peut-être où est-ce qu'on a échoué et de revenir sur la bonne voie. Parce que je pense qu'on veut tous servir le Seigneur, mais parfois les motivations ne sont pas les bonnes. Et parfois la patience n'est pas là non plus au rendez-vous. Et donc, on voudrait dire, aujourd'hui, je vais servir le Seigneur et que demain matin, il y ait une multitude de gens qui nous attendent et qu'à travers nous, il y ait des conversions, des miracles, des multitudes qui viennent à Christ. On aimerait et on pense que c'est comme ça que ça marche. Ben, ça ne marche pas comme ça. Combien de personnages dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, sont un témoignage vivant qu'il y a un processus. Il y a un processus d'approbation. Il y a une série d'événements, d'épreuves dans notre vie qui vont faire en sorte qu'en sortant de ce moment-là, on va avoir le dokimos de Dieu. Alors, c'est important. C'est important de passer par ce processus et de ne pas sauter les étapes. Et de voir les circonstances, les événements de ta vie et les épreuves de ta vie comme justement des occasions pour que Dieu approuve plus ta vie, ton ministère, ta façon de servir, ton cœur, tes motivations, ta foi, etc. Il y a des gens, malheureusement, veulent aller vite. Ils veulent déjà être dans un ministère international, puis d'avoir un impact sur des foules et ci et ça, mais ils n'ont jamais été approuvés par Dieu. C'est triste. Mais assurons-nous de ne pas faire partie de cette catégorie de personnes. Donc voilà, série d'événements, série d'épreuves qui font en sorte que lorsque Jésus débarque à Génézareth, il y a une multitude qui est là. Et Dieu se glorifie grandement. La Bible dit que les gens allaient dans les places publiques. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, on prend l'exemple du marché Jean Talon, c'est comme si des personnes vont en foule là-bas pour rencontrer Jésus. Et à l'époque, ben, il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Fait que, t'sais, les nouvelles couraient pas aussi vite. Donc, il pouvait peut-être avoir, je sais pas moi, une centaine de personnes, peut-être des milliers de personnes qui parvenaient ou qui arrivaient à se rassembler là où Jésus se trouvait. Mais imaginez ça aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Ça serait quoi? Des centaines de milliers, voire des millions de personnes? Ça ne vient pas tout seul. Le serviteur doit être éprouvé. Il doit être éprouvé par rapport à la reconnaissance, par rapport à l'humilité, pour pouvoir être efficace dans cette étape-là de service. Et peut-être que tu peux sentir qu'à travers toi, tu touches beaucoup de gens. C'est bien, c'est excellent. Mais assure-toi d'avoir passé le processus. Assure-toi d'être éprouvé par Dieu. Que ton cœur ne soit pas ton propre piège. Que ton cœur ne soit pas ton propre piège pour échouer à cause de l'orgueil ou de la recherche de la reconnaissance. Et donc voilà, après avoir traversé, verset 53, après avoir traversé la mer, je ne sais pas combien de fois on a lu ça depuis le début. Combien de fois il y a eu des traversées? Ça me connaît, il y en a eu plein, hein? Plein de traversées de la mer. Toujours la même mer, là. On ne parle pas d'une autre mer. Toujours la mer de Galilée. Ne sais pas combien de fois ils l'ont traversée. Mais vous savez quoi? À chaque fois, c'est un changement d'étape. À chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau dans une nouvelle phase, une nouvelle étape, une nouvelle dimension. À chaque fois, il y avait un changement. Et pour nous, ça doit beaucoup nous parler parce que avec Jésus, on traverse beaucoup de choses. Les circonstances de la vie sont des traversées. Les événements de la vie sont des traversées où est-ce qu'on traverse une étape. Parfois, c'est une étape houleuse, ou une étape de tempête, une étape difficile, mais on la traverse. On va de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a quelque chose d'autre. Et de l'autre côté, il y a des gens qu'on peut servir. Et là, par la suite, on retraverse une autre étape. On traverse une autre série d'événements dans notre vie qui nous amène à un autre point dans notre vie où est-ce que là, on peut servir d'autres personnes. Et là, on traverse une autre étape et on repasse encore la mer. Et là, on retourne quelque part ou peut-être on va vers un nouvel endroit avec de nouveaux défis, avec de nouveaux besoins. Et on se retrouve également là dans la situation de pouvoir servir, toucher des gens que jamais on n'aurait pu toucher avant. Mais parce qu'on a passé par ces différentes étapes, parce qu'on a passé par ces différents événements dans notre vie, parce qu'on a traversé et traversé et traversé avec Jésus, qu'il y a eu ces changements-là dans notre vie, on arrive au point où est-ce qu'on peut toucher des gens. On arrive au point où est-ce que on a accès à des gens que jamais on n'aurait pu avoir accès autrement. Voyez l'importance des épreuves, l'importance des événements dans notre vie, mais surtout l'importance d'être éprouvé par Dieu. Suivre Jésus, dans le fond, notre prière quotidienne devrait être, Seigneur, on va où aujourd'hui? Où allons-nous aujourd'hui, Seigneur? Qu'allons-nous traverser aujourd'hui? Et ça devrait même changer complètement la perspective de comment est-ce que nous menons la vie, comment est-ce que nous voyons la vie. Parce qu'on voit les tempêtes, puis ça nous décourage, ça nous déprime, et c'est difficile la vie chrétienne, ou c'est dur croire en Jésus en 2020 dans une pandémie, puis en plus l'Halloween s'approche, oh mon Dieu, ça, c'est tellement difficile. Et alors qu'on devrait regarder ça plutôt, ben Seigneur, c'est une épreuve, on est en train de traverser quelque chose, Seigneur. T'es avec moi dans la barque, on est en train de traverser quelque chose. C'est peut-être difficile, c'est peut-être pas agréable. C'est peut-être pas agréable juste parce que c'est pas dans mon contrôle. Tout simplement, l'inconfort qu'on a dans notre vie, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas en contrôle. Bien des fois, c'est juste ça. Et parce qu'on manque de foi. Mais si on aurait une perspective différente et dire, « Oh Seigneur, je passe par ceci, mais je suis avec toi, on va aller de l'autre bord. » Et de l'autre bord, il y a des choses qui nous attendent. Et vous savez quoi? Combien de fois on entend les gens nous dire, « Oh, il y a une bénédiction qui t'attend de l'autre bord. Il y a une récompense qui t'attend de l'autre bord. » Mais jamais on dit, « Il y a une opportunité de servir qui t'attend de l'autre bord. » On dit jamais, ces gens-là disent jamais, de l'autre côté, il y a une autre dimension de service où tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont atteindre. C'est tout le temps axé sur la personne. Tu vas avoir une autre dimension, tu vas avoir une autre révélation, tu vas avoir une autre bénédiction. Fait que c'est toujours, toujours centré sur la personne, jamais centré sur les autres. Ce qui fait en sorte que lorsque tu te rends de l'autre côté, tu manques les opportunités de servir. Parce que toi, tu es là en train d'attendre qu'est-ce qu'il y a pour toi. Alors que Dieu t'a placé là, Dieu t'a amené là dans la vie pour les autres, pas pour toi. Parce que Jésus a été appelé pour servir. Il est venu sur terre pour servir, pas pour être servi. C'est la même chose avec nous. Et combien de fois on passe à côté d'occasions et on passe par des étapes et on traverse des étapes et des changements dans notre vie, mais on passe à travers des occasions en or de servir et de toucher des gens. Tout simplement parce qu'on se dit, ben là, je suis là, rendu ici, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et Marc, chapitre 6, c'est juste, qu'est-ce qu'il y a pour les autres? Quand Jésus allait de l'autre côté, il y avait la foule. Qu'est-ce qu'il y a pour la foule? Qu'est-ce qu'il y a pour les autres? Et dans nos moments de prière, Seigneur, il faudrait que ce soit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers moi? Seigneur, tu me diriges où? Et qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Qu'est-ce que tu t'attends de moi pour les gens qui t'attendent de l'autre côté, mais qui vont me voir, moi, sortir de la barque? Le Jésus qu'ils vont voir, c'est moi. Le Jésus qu'ils vont voir sortir de la barque, s'approcher d'eux, c'est moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers moi? Je pense que c'est important qu'on remette en perspective tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que ce qu'il va avoir de l'autre bord, c'est pour les autres. Premièrement, Dieu s'occupe déjà de toi. Dieu a même dit, il ne faut pas s'en faire sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va se vêtir, parce qu'il s'occupe des oiseaux, il s'occupe des fleurs, il ne va pas s'occuper de ses enfants. Mais si nous, notre prière, si nous, notre temps de prière, notre préoccupation tourne autour de ce que c'est mon besoin à moi, quand est-ce que j'ai le temps de m'occuper des autres? Quand est-ce que je sers les autres? Quand est-ce que mon focus est mis l'emphase sur les autres, sur quel est le besoin qui est là et pourquoi est-ce que Dieu m'a amené ici dans ma vie? En lien avec cela. Un homme, une femme qui est éprouvée par Dieu a cette vision-là. Un homme qui est accepté, qui a le bon poids selon la balance de Dieu, est une personne qui comprend cela et qui a cette vision-là également par rapport à la vie. Que c'est plus nous, c'est plus moi, c'est les autres. Et c'est qu'est-ce que Dieu veut faire à travers moi pour toucher les autres. Alors, arrêtons. Arrêtons de passer à travers des occasions de service. Arrêtons de passer à travers des occasions de toucher la vie de gens à cause que nous sommes centrés sur notre propre intérêt et sur ce que nous pouvons retirer de telle ou telle situation. Jésus est venu pour servir, pas pour être servi. Et à chaque traversée, Jésus était au service. Jésus n'était pas en train d'être servi. Et c'est ce qu'il était en train d'inculquer à ses disciples. Vous allez passer par des étapes. Vous allez traverser d'une étape à une autre. Votre vie va être une série d'événements, une série d'épreuves. Mais à chaque fois, il va y avoir une ouverture, une possibilité d'à travers le service toucher des gens qui ont besoin d'être touchés et que c'est la seule façon que ces gens-là vont pouvoir rencontrer Christ. La seule façon. Et donc, à travers les événements de notre vie, Dieu nous change, Dieu nous façonne, Dieu nous émonde de façon à ce qu'on puisse servir mieux et qu'on puisse servir davantage et qu'on puisse porter beaucoup, beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits, davantage, beaucoup plus. Changeons de mentalité. Changeons de regard. Je crois que parce qu'il y avait cette disposition-là déjà dans le Seigneur, le reste a pu s'accomplir. Au verset 55, il dit que les gens, en fait, les 54, quand ils furent sortis, les gens ont sitôt reconnu Jésus. Au verset 55, ils parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Regardez quelque chose. Dans d'autres narrations, dans d'autres chapitres où on parle de multiples guérisons, on dit que les gens venaient pour être guéris. On dit que les gens s'approchaient à Jésus pour le toucher, pour être guéris, pour être délivrés et tout. Ici, on dit que des gens sont allés parcourir, ce n'est pas les disciples, des gens, quand ils ont reconnu Jésus, ont parcouru les villes, les villages, les campagnes, et ils ont pris des gens et les ont amenés à Jésus. Donc, ce n'étaient pas des gens qui, eux, étaient dans le besoin nécessairement. Ce n'est pas eux qui avaient besoin du miracle, mais ils ont servi de moyens pour que d'autres personnes viennent à Jésus. Mais ça, ça n'aurait pas été possible si Jésus, à la base, n'était pas de la même façon, n'était pas du même caractère. Si Jésus n'avait pas ce focus sur les autres, et si lui n'était pas dans l'intérêt, il n'était pas présent là, à Génézareth, pour l'intérêt des autres. Il n'était pas là pour son propre intérêt, il était là pour l'intérêt des autres. Et là, comme effet d'entraînement, les autres vont chercher d'autres et les amènent à Jésus. C'est un geste de foi. On assiste à des gestes de foi, à des gestes de compassion qui se manifestent naturellement, automatiquement, dans la vie de personnes qui ne sont même pas proches de Jésus. Mais voilà l'effet qu'un homme éprouvé par Dieu engendre. c'est qu'il y a, un effet qui se crée. Il y a un mouvement qui se crée dans la foule, parmi les gens, qui fait en sorte que les gens viennent à Christ. Hey, c'est facile de servir dans ce temps-là. C'est facile. Pas besoin de faire de campagne d'évangélisation. Puis de... Non, les gens viennent. Les gens viennent. Même les inconvertis font le travail. Ils vont faire l'évangélisation. Tu n'as pas besoin de faire d'annonce. Tu n'as pas besoin de distribuer des pamphlets. Les gens, eux autres même, font le travail d'aller porter le message et d'amener des gens à Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais ça arrive ou c'est arrivé tout simplement parce que Jésus avait passé à travers toutes ces épreuves et qu'il était éprouvé, qu'il avait l'approbation de Dieu dans sa vie. Et remarquez une chose dans le verset 56, c'est que on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? En fait, pas très loin, au chapitre 5, il y a une femme qui était malade pendant 12 ans, elle était malade de perte de sang. Et elle, dans un geste de foi ultime, elle s'est approchée de Jésus et elle a touché le bord de son vêtement. Elle a touché là où est-ce que les promesses de Dieu étaient brodées, étaient inscrites. Elle s'est accrochée d'être là. Elle dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement. Et automatiquement, cette femme-là fut guérie. Le témoignage de foi de cette femme-là s'est répandu. Ce qui a fait en sorte qu'à Génézareth, des gens avaient, il y avait de la foi, mes amis. Il y avait de la foi. Les gens avaient la foi pour aller chercher, pour aller annoncer, dire aux autres, Jésus est là. Et pour les amener à Jésus, il y avait la foi. Mais il y avait aussi la foi des gens qui demandaient, Seigneur, si je peux juste toucher. Si je peux juste toucher le bord de ton vêtement. Vous savez, la foi est contagieuse. La peur l'est aussi. Le doute l'est aussi, mais la foi l'est contagieuse. Et si tu es un homme de foi, si tu es une femme d'une foi qui est vivante, d'une foi qui est réelle, qui est sincère, tu as entre tes mains quelque chose de contagieux, de beaucoup plus contagieux qu'un coronavirus, mais très contagieux. Et dans la bonne direction, dans la bonne définition, dans le bon sens. La foi est contagieuse. Et des gens ont imité la foi ou les actes de foi de cette femme qui était malade. Et il y a des gens qui vont imiter ta foi aussi. Mais si ta foi elle n'est pas visible, ils imiteront rien. Ces gens-là imiteront rien. Ta foi sera imitée. Ta foi sera imitée par tes enfants. Ta foi sera imitée par les nouveaux qui vont venir. Toi qui ça fait des années que tu es là, moi qui ça fait des années qu'on est là, les gens vont imiter notre foi. Et si nous, on n'a pas une foi sincère, une foi contagieuse, la relève va avoir des problèmes. Les prochaines générations vont avoir énormément de problèmes. Assurons-nous que notre foi soit réelle, soit vivante, soit visible. Parce qu'il y a des gens qui vont imiter cette foi-là. Et quand on parle de guérison, oui, on parle de guérison, mais ça va plus loin que ça. Parce que ces gens-là qui étaient malades, qui étaient paralytiques, qui étaient marginaux de la société, l'œuvre de Dieu dans leur vie, le service de Jésus-Christ dans leur vie, leur permettait une réinsertion sociale, leur permettait de revenir dans la société, d'être quelqu'un dans la société. Chose que, avant, en étant malade ou dans les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, que ce soit prisonnier, spirituellement, était impossible. Donc oui, il y avait des guérisons, mais ce n'était pas juste une guérison. Il y avait une restauration de la vie de cette personne-là. Les miracles, c'était des transformations de vie. Ce n'était pas juste sur l'aspect physique de la personne. C'était une transformation de vie. Et l'Église, je pense que l'Église a ce rôle-là de transformer des vies, de transformation de vie et de transformation sociale aussi. S'il y a un organisme, s'il y a un groupe de personnes qui peuvent transformer une société, c'est bien l'Église. C'est bien l'Église, mais une Église avec une foi qui est vivante et avec une approbation de Dieu, comme quoi ils sont éprouvés de Dieu. L'autre point qu'on peut remarquer ici dans ce passage-là, c'est que on a comme l'impression, et ça c'est depuis le début, on a comme l'impression que à chaque fois que Dieu va quelque part, ou que Jésus va quelque part plutôt, les gens vont là juste pour demander quelque chose de Jésus. Jésus, j'ai besoin de ci. Jésus, un miracle. Jésus fait ci. Jésus fait ça. Jésus. On dirait qu'on se sert de Jésus. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais moi j'ai comme eu un petit peu cette impression-là, ce sentiment-là, quand j'ai commencé à lire et à étudier. Je me disais, mais coudonc, tout le monde veut quelque chose de Jésus. On dirait qu'on se sert de lui, là. Pauvre gars, on fait juste se servir de lui, l'utiliser pour notre besoin, puis après ça, ben, on n'en entend peut-être plus parler. Et ça se pourrait qu'aujourd'hui, des gens aient un peu le même sentiment, qu'on est utilisé, qu'on se sert de nous, et qu'on fait juste se servir de nous, et qu'après ça, ben, on ne pense plus à nous. Que les gens pensent à nous seulement lorsqu'ils ont besoin de prière, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ah oui, là, on va appeler un frère, on va aller voir un tel, ou le pasteur aussi, ou tel autre frère, ou telle autre sœur. Seulement quand il y a des problèmes. Seulement quand il y a des besoins. On a besoin qu'une prière vienne solutionner, puis, ah, prie pour moi, viens ici, fais ça. Une chose est sûre, c'est que Jésus n'a jamais démontré de ressentiment ou de réaction face à cet égard-là. Parce que Jésus savait pourquoi il était là. Jésus savait pourquoi il était là. Il était là pour servir, non pas pour être servi. Et bien que nous, aujourd'hui, on pourrait avoir ce sentiment-là aussi. Parce que, ben, tu sais, en plus, on peut avoir telle personne en particulier. M'appelle juste quand il y a des problèmes. M'appelle juste quand il y a des besoins de Dieu. Mais le reste du temps, ne se souviens pas de moi. Rappelons-nous une chose, bien-aimés. Nous sommes appelés pour servir. Donc oui, donner, oui, se donner sans rien attendre en retour. Sans rien attendre de la part des gens. Pourquoi? Parce que, comme on a dit au début, vous allez servir. Il y a des gens qui vont vous dénigrer. Malgré votre service. Il y a des gens qui vont vous projeter au plus bas. Vont vouloir vous écraser, vont vouloir vous ignorer, vont vous maltraiter. Et il y a d'autres gens qui vont vouloir vous élever au-dessus des cieux. Vont vouloir écrire des hymnes et des poèmes en votre honneur. Vont vouloir écrire des livres et chanter des chants de louange en votre nom. Aucun des deux n'est bon. Et un serviteur ne doit pas s'attarder ni à l'un ni à l'autre. Un serviteur doit servir sans s'attendre à rien. Parce qu'il sait que sa récompense vient de Dieu. Sa récompense ne vient pas des hommes. On est là pour servir. Nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour servir. Et Jésus, il est venu pour servir. Donc, en résumé, la vie est constituée de séries d'événements, de séries d'épreuves. Et on va connaître des hauts, on va connaître des bas. Et le chapitre de Marc, chapitre 6, est riche, dans le fond, en enseignements, en expériences, en situation, en épreuve. en leçon pour nous par rapport à cet aspect-là. On a vu que le serviteur de Dieu doit être éprouvé, c'est-à-dire qui passe les tests, les épreuves de Dieu, qui est mis sur la balance, et que le poids de cet homme-là, de cette femme-là, est considéré vrai, est considéré bon. Donc, il y a le sceau d'approbation de Dieu. On a vu également qu'à travers les événements, les épreuves de la vie, bien, Dieu nous change et Dieu nous prépare pour l'autre étape. Dieu nous prépare pour mieux servir. Dieu nous prépare pour pouvoir connecter avec des gens qui ont besoin de rencontrer Christ. De connecter avec des gens qu'autrement on n'aurait jamais eu de rencontre avec ces gens-là. Mais à travers les circonstances et les situations, Dieu nous amène là. À travers les traversées dans notre vie, Dieu nous amène là. Et donc, ça nous interpelle à revoir notre façon de considérer notre propre vie. D'arrêter de focusser sur soi-même et vraiment de commencer à focusser sur Seigneur. Quels sont les besoins? Et comment veux-tu que je serve? Que je sois utile. Que notre foi puisse être imitée. Que notre foi soit vivante. La foi est contagieuse. Le doute aussi. Si on sème le doute, on va récolter le doute. Si on parle le doute, des gens vont être affectés par ou infectés par le doute, même dans l'Église. Assurons-nous de transmettre comme héritage, non seulement à nos enfants, mais aux enfants spirituels, une vraie foi, basée sur la vérité, basée sur la grâce de Dieu. Et peut-être que nous avons parfois le sentiment d'être utilisés, qu'on se sert de nous, et ça peut être une réalité. Mais n'oublions pas que nous sommes là pour servir. Jésus a servi sans rouspéter, sans se plaindre, sans manifester du ressentiment, parce que dans son cœur, il y avait cet amour, cette compassion pour les gens. Donc, soyons comme Jésus. C'est un privilège. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège de servir l'Église. C'est un privilège de servir les âmes. Regardons-le comme un honneur, comme un privilège. Alors faisons de notre mieux et surtout, assurons-nous d'avoir le document de Dieu, d'être approuvé par lui. Parce que c'est ce qui va nous permettre de servir mieux et de servir encore plus. Père éternel, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour toute ma vie. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les épreuves. Je te remercie pour tous les événements. Je te remercie pour toutes les circonstances, pour toutes les tempêtes, pour tous les moments de désert. Je te remercie pour les moments difficiles, pour les bons moments aussi, pour les moments de vert pâturage. Pour le moment, Seigneur, où est-ce que tu as dressé une table devant moi en face de l'adversité? Je te remercie pour les fois où tu as oint d'huile ma tête. Ou les fois où tu as pourvu, Seigneur. Merci pour toutes les étapes lesquelles, Seigneur, tu m'as fait traverser. Parce que chaque étape m'a amené quelque part. Il m'a amené quelque part pour pouvoir mieux servir et servir davantage. Que nous puissions, Seigneur, avoir un changement de vision, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, voir les étapes, les circonstances de notre vie, non pas, Seigneur, comme un poids, ni comme un signe de ton abandon, ni comme un doute de ton caractère, parce que tu es bon et ton caractère ne change jamais. Tu ne vas jamais nous laisser tomber. Et nous allons toujours traverser et aller de l'autre bord. Mais que nous puissions voir ces événements-là comme des opportunités de faire mieux, de faire davantage, de connecter avec des gens que sans ces expériences-là, on n'aurait jamais pu être en contact avec ces gens-là et de saisir ces opportunités-là, Seigneur, pour servir en ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour cet exemple que tu as laissé en étant venu, Seigneur, sur terre, en prenant la forme d'un homme, parce que ça nous parle et ça nous montre, Seigneur, où nous sommes situés par rapport à toi et comment nous devons prier, Seigneur, pour nous rapprocher plus de ton image et de ton modèle, Seigneur. Enseigne-nous davantage. Nous avons beaucoup à apprendre, Seigneur, par rapport au service. Parce que tout comme toi, Seigneur, qui a été envoyé, Seigneur, pour, ou qui est venu, Seigneur, pour servir et non pour être servi, c'est également, Seigneur, le même sentiment qui doit nous habiter, à nous tous. Alors, merci de travailler dans nos vies à travers les différentes étapes, les différentes situations. Merci de te glorifier. Et merci de nous préparer à la rencontre de ces gens qui vont être de l'autre bord. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, soyez éprouvés, soyez approuvés par Dieu. Regardez bien ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et considérez que c'est une opportunité que Dieu vous donne de pouvoir servir, de pouvoir connecter avec des gens qu'autrement, il aurait été impossible. Dieu ouvre des nouvelles portes, des nouvelles possibilités pour être en contact avec des gens. Donc, profitons-en. Ayons ce vrai regard, caractère, cette vraie attitude de serviteur. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas demain la bénédiction matinale avec le pasteur Florent à 8h30. Bonne soirée et je vous dis shalom.